With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le rendez-vous tech numéro 428 en octobre 2021. On va vous parler des MacBook Pro M1, Max Plus, Mega Plus Plus. On a aussi les Pixel 6 et 6 Pro. On a Truth Social, le réseau social de Donald Trump, et un pacte secret entre Google et Facebook. Tout ça et bien plus, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets toutes les semaines, même rendez-vous hebdomadaire. On est fidèle au poste, on est là, vaillant, plein d'énergie et plein d'informations à partager avec vous, à résumer, à expliquer. Je voudrais remercier, avant même de nous lancer, remercier Quest, Sacha Torres, Olivier Stabovic, François Poyac et Benji5677 qui sont les patriotes qui soutiennent l'émission et en plus les producteurs de cet épisode, Franck Matignon et Derek Herbe. Merci à vous tous. Si vous appréciez l'émission, vous savez que c'est sur patreon.com/rdvtech que vous pouvez aller pour la soutenir. Et pour me soutenir, moi-même, je sais, Patrick Béja, qui anime vaillamment cette émission. Enfin, vaillamment, j'essaye en tout cas. Heureusement, quand j'ai un petit coup de mou, une petite baisse de régime, il y a Gaël qui est là pour me remonter le moral avec sa bonne humeur et son entrain. Comment vas-tu, Gaël? Est-ce que tu es en forme aujourd'hui?
Bonjour Patrick, écoute, très en forme et ravi de te rendre de bonne humeur aussi, si je peux partager au moins un petit peu ça.
Écoute, une telle expertise dans le domaine de la tech, tu sais, moi ça me détend parce que du coup, j'ai moins la pression et j'ai moins de travail à faire. C'est ça en fait que je fais, c'est que j'invite des gens intelligents, comme ça j'ai moins de boulot dans l'émission, c'est quand même
ça va pratique. Ça vas-y, fous la pression.
Écoute, moi je m'en débarrasse, donc je l'évacue un petit peu sur toi.
Je peux la passer à Maxime alors.
Eh bien écoute, on va tenter, Maxime est là pour la première fois avec nous, Maxime Valette, comment vas-tu Maxime?
Mais ça va très bien, j'ai l'impression de parler à ma télé parce que je te regardais sur Twitter il y a quelques années déjà, ça ne nous rajeunit pas.
Ah oui, sur Twitter carrément, je pensais que tu allais dire Twitter ou Twitch, mais Tweet This Week in Tech, le podcast américain. Tout à fait, oui, ça fait un moment que j'y suis pas allé, mais j'ai commencé, oula. Quand est-ce que j'ai fait ma première émission avec Léo Laporte, le godfather of podcasting, of tech podcasting?
Moi, j'ai réfléchi. Moi, c'était au moins il y a 7 ans, 6-7 ans, parce que j'habitais même pas ici quand je te regardais. Mm-hmm. Donc oui, ça devait être il y a 2013, 2014.
Tu sais quoi? La première fois, c'était en 2008, je crois, que j'y suis allé. J'étais carrément allé à la Brick House avec des amis américains que j'avais rencontrés dans une convention de podcasting que j'écoutais par ailleurs. Et ils m'ont dit, on va faire un petit road trip, on va aller en Californie. On était au milieu des États-Unis. Et puis après, on rentre chez nous. Tu veux venir avec nous? Et c'était un couple très sympa. Et je me suis dit, ouais, allez, on y va. Mais je les connaissais pas, en fait. Tu vois, c'était juste, allez, on va en voiture, ça va être sympa. Ils auraient pu m'enterrer dans un désert en Arizona, tu sais. Personne m'aurait retrouvé, personne savait où j'étais. C'était très sympa. Trêve de plaisanterie, Maxime Valette, c'est la première fois que tu es dans l'émission. On va quand même te présenter un tout petit peu aux auditeurs. Alors, je pense que la raison pour laquelle les gens te connaissent, c'est évidemment le service de podcast le plus intéressant du monde, de redirection de flux RSS plutôt, c'est FeedPress. C'est pour ça que tout le monde te connaît, n'est-ce pas?
Bah c'est oui, j'ai bâti ma notoriété sur ce service.
Donc, non, on plaisante.
Dans le monde des podcasts au moins.
Bah, ça, c'est comme ça que nous, on s'est rencontrés, parce que je cherchais une alternative à FeedBurner. C'est un petit peu mon filet de sécurité au niveau des RSS, et ça, c'est très important pour les podcasteurs, mais ça risque d'être un petit peu inside baseball, donc on en parlera peut-être un autre jour. Par contre, tu es aussi à l'origine de VideMerde, qui est effectivement, là, pour le coup, la chose pour laquelle les gens te connaissent, j'imagine.
Ah oui, parce, bon, c'est un site que j'ai créé quand j'avais 19 ans, donc c'est sûr que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses avant, même si j'ai un parcours qui a commencé très jeune. J'étais dans l'e-sport avant de lancer VDM et faire. J'ai fait de l'hébergement de site web aussi avant VDM. Donc j'ai eu quelques activités. J'ai continué activement et bon bah c'est vrai que le développement, on en parlera avec Gaël aussi. Je pense parce qu'on parle de code très vite, mais le développement informatique ça m'a tout de suite passionné très jeune et surtout quand j'ai eu le web, j'ai eu la chance d'avoir le web très tôt et donc vers 9-10 ans j'ai commencé à faire des sites web et j'ai trouvé ça juste magique. Oui.
D'accord.
Et donc là, ça fait plus de 20 ans que j'en fais, donc je crois que ça ne m'a pas lâché.
Ouais. Et maintenant, c'est Beta Series, tu me disais, que je ne connais pas, mais qui est un service plutôt B2B, ou c'est pas vraiment...
C'est une communauté de fans de séries qui s'appelle Beta Series, betaseries.com, et c'est l'application également sur mobile. On regroupe 2 millions de membres dans la communauté, on parle de séries, on fait des recommandations de séries. Et je dirais que l'outil principal, c'est un agenda d'épisodes. Donc, quand tu regardes des séries, tu peux ajouter les séries que tu regardes. On te prévient quand il y a de nouveaux épisodes, des nouvelles saisons. Et on te dit où les regarder, donc sur les plateformes, etc. Ça, c'est l'aspect vraiment B2C. Et après, on est un peu une start-up quand même, parce qu'on a tout un aspect B2B avec les analyses et la data. Donc, on est un peu le médiamétrie. On donne les audiences des séries aux professionnels.
La valeur des données. Mais donc, tu es un peu un entrepreneur, start-upper, comment dire, Startup Nation, investisseur 2.0, quoi. Tu es dans cette mouvance ou je caricature un peu, mais c'est un peu ça.
Non, il y a un peu de caricature, mais je suis un peu comme toi. Je suis un ermite. Je suis né à Reims, donc je suis resté à Reims. Je bosse beaucoup de chez moi. Je suis bien entouré de mes écrans, donc c'est plus... Je dirais que je suis une start-up à taille humaine. Quoi. On aime bien développer des projets, mais je ne serai jamais en Californie ou même à Paris avec 300 salariés en open space. Ce n'est pas trop mon truc.
D'accord.
Mais par contre, j'aime bien lancer des projets. J'aime beaucoup le web. Et même si c'est un peu. Parfois, c'est un peu démodé parce qu'on aime bien parler de matos. Et on va parler beaucoup de matos aujourd'hui, mais le web, c'est quand même formidable pour faire plein de choses.
Alors, on pourrait en parler pendant très longtemps. On a discuté de l'importance de l'ouverture des fichiers des formats comme le RSS et ce que ça peut donner pour le développement de plein d'activités différentes et l'ouverture du RSS par rapport à ce qui se passe dans les podcasts de plus en plus aujourd'hui. C'est des sujets passionnants, mais on a tellement de choses à couvrir aujourd'hui que peut-être qu'on se réservera, un épisode spécial un jour pour parler de ce genre de choses et peut-être parler de ton parcours, ça serait intéressant. Il y a la moitié de la chatroom là qui en entendant vie de merde, se sont dit « Ouh là là, je viens de prendre 15 ans, le site que je consulte tous les soirs ». c'est marrant parce que...
Claire.
C'est vraiment un truc qui... alors, je suis sûr, j'imagine qu'il existe encore, mais... C'est vraiment un truc qui, à un moment, a complètement marqué le web français. Et même, à vrai dire, Fuck My Life, c'est devenu... Je ne sais pas si c'était... C'est vous qui avez lancé Fuck My Life en anglais ?
Non, on l'avait lancé un an après VDM. Et c'était, en termes de célébrité, là, c'est vrai que j'ai jamais eu... Enfin, en tout cas, de popularité, j'ai jamais connu plus dingue que ça. Parce qu'en 3 semaines, on a lancé le site... Et en 3 semaines, tu passes de 0 visite à 2 millions par jour. C'est juste n'importe quoi. Enfin, je pense que je ne revivrai jamais ça.
Ouais.
Et c'était affolant parce que moi, je gérais les serveurs, etc. Je gérais toute la partie technique. Donc déjà, il y avait le site français qui faisait quand même déjà pas mal de visites. Et là, maintenant, ça y est, je me disais, j'ai plus envie de dormir la nuit. Donc, je vais faire un site aux US. Comme ça marche. Quand je dors, c'est le moment où il faut travailler. Donc, génial. C'était très intéressant.
En plus, j'imagine que c'était un moment où tu t'es dit, faut que je le fasse tout de suite parce que sinon quelqu'un d'autre va le faire.
C'était vachement bien. Puis ça nous a permis de toucher à tout parce que Vidmerde, c'est toujours d'ailleurs un site, mais c'est aussi des bouquins. On a fait une série télé, on a fait plein de choses. Et au-delà du site lui-même, c'était vraiment la marque aussi. Et pour le web, c'était le début, pas des réseaux sociaux, mais en tout cas des formats qu'on pouvait consommer aussi en mobile, des formats très courts qu'on pouvait regarder facilement, etc. Et un peu l'ancêtre de TikTok, même, j'oserais dire, parce que je sais que tu es fan de TikTok. Donc.
Bien sûr, bien sûr. Très bien. Écoute, ça me donne très envie d'en parler plus longtemps. Peut-être qu'on se fera une petite conversation à deux à un moment pour parler de tout ça.
Avec plaisir. On y pensera.
Mais pour le moment, donc, sujet bien plus actuel, encore que, Vidmerde, il existe toujours, on disait. Mais il y a donc l'événement Apple dans lequel ils ont présenté... Alors, on va parler d'Apple, de Google Et on va éviter Samsung parce que vraiment, c'était comment créer une déception. C'est annoncer un event la même semaine que Google et Apple. Et au final, ce qu'ils ont annoncé dans l'event Samsung, c'est des personnalisations d'appareils déjà sortis, c'est-à-dire le Galaxy Fold. Non, c'était que le Flip même, le Galaxy Flip Z Flip 2. Ou trois, je ne sais même plus, qui sont customisables. Et la montre aussi, la Watch 4 est customisable. C'est les éditions Bespoke. En gros, ce n'était pas super excitant. Mais heureusement, Apple et Google étaient là, au rendez-vous. Et donc, Apple a annoncé à peu près tout ce qu'on attendait. Hein. On en parlait la semaine dernière, quelques heures avant l'annonce, l'événement lui-même. Et on ne s'était pas trop planté, les rumeurs avaient vu juste, comme parfois. Et donc, on a eu deux MacBook Pro, un format 14 pouces, un format 16 pouces, avec les caractéristiques qu'on attendait, c'est-à-dire des nouveaux processeurs, un écran qui va jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement, le retour surtout du MagSafe, donc le connecteur pour charger qui se décroche et qui se connecte magnétiquement. Plus de Touch Bar, la Touch Bar a disparu, le port HDMI de retour, le lecteur de carte SD de retour. Et donc, tout cet ensemble de choses, je vais passer très rapidement sur les AirPods 3 qui sont un peu plus chers et qui empruntent certaines des caractéristiques des AirPods Pro. Bon, ça c'est sympathique, mais ça ne change pas la face du monde. Pour se concentrer du coup sur les MacBooks, comme je le disais, on savait à quoi s'attendre et c'est ce qu'on a eu. J'oublie pas, bien sûr, l'encoche sur l'écran qui est comparable à celle qu'on a sur iPhone, mais qui a uniquement une webcam de qualité un petit peu améliorée, mais qui n'est pas un vrai Face ID, mais qui est du coup en 1080p, qui devient enfin correct. C'était difficile, les webcams des Mac jusque-là. Et donc plus de Touch Bar, c'est ce que je disais, et le système de son qui est vraiment très très bon. Le prix, comme vous imaginez, est en conséquence. Pour moi, ce qui est vraiment notable, c'est les processeurs, le M1 Pro et le M1 Max. Mais je vais vous laisser peut-être me dire ce qui vous a séduit là-dedans. Et puis, je reviendrai à la charge avec mon M1, parce que pour moi, c'est vraiment un truc extrêmement important. Gaël, je ne sais plus si toi, tu es plutôt Windows ou plutôt Mac. Et du coup, je ne sais pas si ça va te parler, tous ces changements sur les Mac Pro. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi, j'aime bien ne pas prendre de décision. Donc, du coup, sur ordinateur, je suis Windows, PC à fond. Et sur tout ce qui est mobile, je suis iPad, iPhone, AirPod à fond. Donc, c'est compliqué comme vie parce que rien ne se connecte ensemble et je ne profite pas de
l'écosystème magique.
Univers, exactement, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, du coup, sur le Mac Pro en lui-même, le MacBook Pro, effectivement, ça me parle moins. Parce que je l'utilise pas. En revanche, sur toutes les petits les AirPods notamment, puisque je cherche en ce moment des AirPods. Donc c'est le genre de choses qui me parle à titre personnel. Mais on avait déjà parlé du processeur M1 il y a un petit moment et j'ai hâte d'entendre un petit peu ce que tu en penses et ce que tu vas en dire, parce que c'est le genre de choses qui m'intéresse, en tout cas au moins techniquement.
Ouais, écoute, je suis très heureux que tu me dises ça et je vais me lâcher dans un instant, mais je vais quand même donner la parole à Maxime. Est-ce que toi, tu es plutôt Mac plus que Gaël ou tu es également PC en bon bidouilleur et véritable informaticien qui met les mains dans le cambouis?
Alors, j'ai commencé sur Windows il y a quelques années et pour l'anecdote, j'avais un ami à moi... qui était à fond sur Mac. Et quand j'ai lancé VDM, il m'a dit « Bon, maintenant que tu gagnes de l'argent, tu vas pouvoir acheter un Mac. Et tu vas voir, tu vas plus jamais t'en sortir. » Et j'ai acheté un Mac mini juste pour rigoler, pour voir un petit peu. Et effectivement, ça fait 15 ans.
Et tu as été converti.
Je suis toujours aussi fan.
Été converti au culte de Steve Jobs.
Par les nouveaux MacBook. Les nouveaux MacBook Pro, c'est vraiment ce qu'on attendait depuis tellement longtemps que je suis fan.
C'est ce qu'on attendait. Et ce qui est... comique et que tout le monde a noté, hein, c'est qu'il y a quand même un énorme retour aux modèles précédents, les modèles précédents. C'est-à-dire qu'avec les modèles de 2016, je crois, ils avaient supprimé tous les ports différents, il n'y avait plus que de l'USB-C et ils avaient ajouté cette barre, cette touch bar qui était une barre tactile tout en haut du clavier qui n'a jamais pris, qui n'a jamais servi à rien. C'était un écran tactile très fin et très long. Alors j'exagère un peu en disant qu'elle n'a jamais servi à rien, mais en tout cas, clairement, elle n'était pas hyper utile. Et donc là, ils s'en débarrassent et ils remettent des ports, le port pour la carte SD et le port HDMI pour brancher des écrans. Et ils ramènent en plus le MagSafe, qui est vraiment un truc matériellement excellent pour les Mac. Historiquement, c'était un atout même pour les portables d'Apple. Et donc, oui, c'était des choses qu'on attendait, mais d'une certaine manière, même par le design, qui nous rappelle le design des Mac en... Comment il s'appelait ? Des années 2010. Les tout premiers Unibody.
Ah oui, c'était même... Parce que les Unibody, c'était après les PowerBook, mais les PowerBook, c'était 2001, 2002. C'est et ça, après, ouais. On a eu les MacBook.
C'est ça. Et donc, c'est ce design un petit peu différent. Donc, c'est tout ce qu'on attendait. C'est quand même beaucoup de... On regarde en arrière. On ne va pas dire qu'on retourne en arrière, mais on regarde en arrière. Tu es allé t'en commander un tout de suite, du coup, si tu es aussi séduit que ça. Qu'est-ce qui te plaît dans cela, en fait?
Moi, ce qui me plaît, c'est... en termes de port, je pense qu'il y a sûrement une histoire qu'on aura dans 10 ans, parce qu'Apple, ce n'est pas du genre à faire ce genre d'histoire tout de suite, mais... À mon avis, ils ont très vite compris les limites de Intel en termes de carte mère, en tout cas d'intégration, et ce qui fait qu'ils ont
c'est la faute d'Intel. C'est pas la faute d'Apple du coup, c'est la faute d'Intel, très habile.
C'est la faute d'Intel de pas avoir anticipé les limites d'Intel. À mon avis, c'est pour ça qu'en 2017, ils ont commencé. Je sais pas si tu te rappelles, ils avaient fait un entretien un peu presse avec des journalistes tech qui étaient diffusés sur TechCrunch à l'époque. Où ils avaient essayé d'expliquer à tous les techs, tous les geeks Apple qu'ils abandonnaient pas les pros, etc. Et que c'était un peu malgré eux, mais qu'ils considéraient bien les pros, qu'il y allait avoir un nouveau Mac Pro, parce que moi j'ai acheté le Mac Pro poubelle, tu sais, le noir.
qui porte bien ça.
Voilà, donc, et qui n'était pas évolutif du tout. On avait un peu peur, quoi. Et à mon avis, en 2017, ils étaient déjà en train de fabriquer leurs puces. En tout cas, ils étaient en train de faire les usines, etc.
C'est sûr.
Et ils savaient qu'ils pourraient arriver à ce stade-là. À mon avis, ça leur a pris beaucoup plus de temps que ce qu'ils pensaient, probablement. Mais c'était probablement l'aboutissement de ce qu'ils faisaient avant, quand il y avait plusieurs ports. Et la phase USB-C qu'on va vite oublier, à mon avis, Touch Bar plus USB-C... était un peu la façon de faire de la tech sans avoir à refaire les ordinateurs qu'ils ne pouvaient pas refaire.
Il y a deux choses, je crois, qui sont notables là-dedans. C'est d'une part, certains ont fait remarquer que depuis que Johnny Ive est parti, les choses deviennent un petit peu plus utilisables. C'est un petit peu plus pratique comme design, là où parfois Apple se perdait, comme avec les anciens modèles de MacBook Pro, dans des délires de design designer. C'était un petit peu de la masturbation intellectuelle, on va dire. Et donc là, c'est effectivement peut-être ou peut-être pas, on ne sait pas, mais le départ de Johnny Ive qui fait qu'ils peuvent faire des choses un petit peu plus concrètes. Et puis d'autre part, effectivement, comme tu le disais, il y a un retour vers les pros qui, là, pour le coup, est très clair. C'est-à-dire, non, on ne vous abandonne pas. On a des projets très sérieux spécifiquement pour vous, pour les pros et pour les Mac. Hein. On avait tendance à se dire, peut-être que Apple ne s'intéresse plus tellement aux Mac. C'est une petite partie de leurs revenus par rapport aux iPhones et même à d'autres choses. Là, ils ont apporté beaucoup de soins à ces appareils. On voit, par exemple, que le MacBook Pro, le plus gros d'entre eux, on peut carrément connecter 3 écrans, des gros écrans, hein, et une télé 4K, en plus de l'écran de base du Mac. Alors ça, c'est clairement des choses que les utilisateurs normaux, entre guillemets, dont ils ne vont pas avoir besoin. Mais c'est vraiment un signal clair envers les utilisateurs professionnels de Mac, qui, pour certains, ont commencé à partir. Ils se sentaient un petit peu abandonnés.
Il y a eu la phase Hackintosh, mais qui n'est plus vraiment possible maintenant. Et maintenant, les gens repassent même beaucoup sur Windows. Alors, à mon avis, avec celui-là, il y a quand même, un virage qui devrait se refaire aussi dans l'autre sens. Et en plus, moi, je l'ai commandé non seulement pour remplacer mon MacBook Pro, mais aussi mon iMac que j'avais en bureau. Parce que comme tu dis, comme maintenant, on peut rebrancher, ils l'ont bien mis en avant, notamment, à mon avis, pour satisfaire les gens qui achèteront jamais de Mac Pro, parce que le niveau de prix est quand même surélevé par rapport à des besoins comme moi. Et par contre, un MacBook Pro aujourd'hui est capable de faire du desktop et du laptop en même temps. Et je pense que c'est ça aussi qu'ils ont beaucoup mis en avant dans la keynote, et notamment entre guillemets, entre autres avec les ports et aussi avec ces écrans-là qui sont quand même. Bon, il faut avoir le M1 Max quand même pour avoir quatre écrans. Mais,
c'est vrai. Mais c'est un truc qui est possible, quoi. Ouais, bon, les prix, tu disais le prix des Mac Pro est important, celui des MacBook Pro, il n'est pas minime non plus, hein, mais pour moi, vraiment.
Oui, mais reviens sur le côté pro, tu vois, ça me dérange pas parce que tu te dis un pro est quand même capable de payer une certaine somme pour une machine qui va te durer 10 ans. Enfin, franchement, un MacBook Pro comme ça, à mon avis.
Bah, à vrai dire, même qui dure 10 ans ou pas, c'est vrai que là, pour le 10 coup.
10 ans, tu t'emballes.
10 ans, ça fait un peu.
Ah
long.
Non, alors. Écoute Gaël, moi pour l'histoire, j'ai un Mac Pro de 2007 qui tourne encore, donc et qui tourne encore.
Non, qui tourne
bien.
Encore. Je me doute, mais un Pro, tu laisses pas tes équipes avec un ordinateur pendant 10 ans, mais qui tourne encore, qui l'est pour une vie, voilà. Je suis d'accord. Mais...
Alors qu'un Windows qui a 15 ans, je veux pas dire, mais à mon avis.
Ah, je crois que c'était Numérama ou Frandroid, l'un des deux qui a installé Windows 11 sur un ordinateur qui avait 17 ans. Cette semaine, c'était rigolo. Bon, là encore, je ne suis pas certain que ça soit idéal, optimal pour les pros, mais c'est possible. Là où vraiment, je crois, Apple fait très très fort, au-delà des choses qui font plaisir aux fans d'Apple, et j'avoue que moi-même, j'en ai pas vraiment besoin, mais ces MacBook Pro me font sérieusement de l'œil, mais au-delà des trucs qui nous font plaisir à nous, l'aspect processeur est vraiment le truc à retenir, comment dire, je pense que ça sera quand on regardera en arrière dans 5 ou 10 ans. Et c'est pas une insight de fou, hein. C'est pas que je fais une analyse hyper pointue. Tout le monde est d'accord là-dessus, je crois. Mais ce qu'il faut remonter, c'est les processeurs M1 et ces versions M1 Pro et M1 Max qui sont d'une puissance assez hallucinante en consommation tout à fait raisonnable pour des ordinateurs portables. Ce qui veut dire, on peut le dire entre parenthèses, on se demande ce que ça va donner en version desktop quand ils n'auront pas de contraintes thermiques et quand ils pourront mettre des processeurs avec des vitesses pas illimitées mais enfin plus importantes, rajouter des transistors sur la die, sur la gaufre, etc., etc. Mais ça sera, je pense, le moment, l'élément dont les gens se souviendront comme un fait marquant pour Apple, au même titre que iTunes, l'iPod, l'iPhone. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, mais dans ce genre de catégorie. Le M1, c'est vraiment un truc qui est en train de montrer à toute l'industrie qu'un truc qu'on ne pensait pas possible, et non seulement possible, mais est fait avec une telle maîtrise et maestria que ça remet en question toutes les certitudes de l'industrie. Alors, évidemment, les processeurs d'Apple, ils sont basés sur des processeurs ARM, même si maintenant, je me demande à quel point ils les modifient et si c'est vraiment encore des processeurs ARM ou pas, mais en tout cas, ils sont basés là-dessus. C'est une architecture qui est une architecture RISC, Restricted Instruction Set, machin, computing, computer, contrairement aux processeurs Intel qui sont des processeurs CISC. Alors, je parle un petit peu mécanique, mais pendant... Je crois depuis les débuts de l'informatique, la bataille entre le RISC et le CISC était féroce et on s'est toujours demandé si le RISC ou le CISC était meilleur pour faire des tâches complexes et le CISC a vaincu avec les processeurs Intel et architecture x86, etc. Mais Apple, avec les processeurs ARM, a montré... Bah, bon, d'une part, ils étaient toujours sur les appareils mobiles hein, et on savait que ça consomme moins, donc c'est plus adapté à ça. Mais là, Apple montre que cette famille de processeurs peut faire aussi bien, voire parfois mieux, que les processeurs traditionnellement pour les ordinateurs de bureau ou portables. Et la manière, parce qu'on l'avait vu l'année dernière avec les processeurs M1 de base qu'ils avaient présentés, c'était déjà puissant. Mais là, ils confirment et ils enfoncent le clou avec des performances qui sont dans les tests, les premiers tests qu'on commence à avoir, si élevées que là où on calcule les différences avec les autres types de machines, c'est pas « Ah, il fait à peu près aussi bien que tel ordinateur portable ou tel machin ». On commence à en voir les limites, en fait, quand on compare à des machines de bureau. C'est-à-dire que ces portables sont comparés à des machines de bureau, y compris dans des domaines qui sont traditionnellement complètement réservés, la chasse gardée des machines de bureau, c'est-à-dire les graphismes. Au niveau des performances graphiques, les M1 Pro et Max en particulier, bien sûr, réussissent à venir taquiner les processeurs graphiques spécialisés de dernière génération. Alors bien sûr, les tout derniers, les plus puissants sont meilleurs, mais c'est dans cette conversation qu'on tombe. C'est pas genre alors les puces spécialisées sur les puces intégrées au processeur ou les puces spécialisées sur les portables. On est clairement à un niveau comparable et plus élevé. Donc ça change énormément l'approche de la conception des processeurs, et on est en train de voir que d'autres sont en train de s'y mettre. Alors, bon, il y a toute une discussion à avoir avec Intel et ce qu'ils vont faire à l'avenir, mais c'est un moment hyper marquant pour moi, et ça restera dans l'histoire d'Apple l'un des choix audacieux qui aura marqué l'industrie. Peut-être pas les utilisateurs finaux, mais l'industrie.
T'as eu le MacBook Air il y a une dizaine d'années. Je pense que là, c'est effectivement le nouveau MacBook Air dans l'autre sens, quoi. Mais c'est, comme tu dis, ça redéfinit la façon de faire. Quand Apple a lancé le MacBook Air il y a 10 ans, un peu plus, maintenant 10 ans, c'était tout le monde a essayé de faire pareil. À mon avis, là, demain, tu vas avoir plein de faux, en tout cas de copies de MacBook Pro M1 Pro. Qui vont apparaître, parce qu'on va se dire bah maintenant c'est ok de remettre des ports, c'est ok de faire un truc un peu plus gros, parce que même s'il n'est pas plus épais techniquement, il est quand même plus épais parce que tu sais, t'as l'arrondi, etc. Enfin bon, c'est ok de revenir sur un truc qui est peut-être un peu plus costaud, un peu plus puissant pour des vrais pros qui peuvent avoir besoin de puissance. Et ce qui m'étonne, comme tu dis, sur le processeur, c'est le fait de qu'il consomme si peu d'énergie. Et tu le vois même sur des tests, même thermiquement, il est à peine à 30 degrés quand ils font tourner les Geekbench, etc. Le clavier, il est à 30 degrés, alors que sur un PC, ils sont à 60 minimum, et c'est impossible de l'utiliser, alors que là, tu as l'impression qu'il y a une sorte de facilité dans l'usage qui est assez incroyable. Mais à mon avis, ça restera effectivement dans la postérité.
Bah, c'est un petit peu l'aboutissement de la philosophie célèbre du « il faut maîtriser le matériel et le logiciel ». Et là, Apple finit de maîtriser toute la partie matérielle en allant jusqu'à faire ses propres processeurs. Alors, ce n'est pas complètement fini, mais quasiment, faisant ses propres processeurs. Toutes les parties importantes sont faites en interne. Et ça, c'est un truc qui est difficile à égaler. Alors, on a vu que Google, Microsoft et d'autres sont en train de se mettre à faire leurs propres processeurs. C'est peut-être une nouvelle tendance, mais les résultats sont éclatants du côté d'Apple. Il faut noter tout de même que du coup, tout est intégré dans la puce, c'est-à-dire que, évidemment, le processeur principal, le processeur graphique, mais aussi la mémoire sont intégrés dans la puce. C'est plus de la mémoire que tu peux changer. Et donc, tout ça se parle beaucoup plus vite, comme tout est sur la puce, sur le même, comment on dit, le die en français, la même puce, ouais. Ça va beaucoup plus vite que si la mémoire doit sortir, la mémoire est à l'extérieur et que la communication doit sortir. Mais en plus de ça, ils maîtrisent aussi la chaîne jusqu'au niveau logiciel, et donc ils font tout de la manière qu'ils veulent et de la manière qu'ils l'imaginent techniquement, et ça leur procure un avantage clair, je pense.
Oui, surtout sur du laptop, je pensais ça aussi. Ils peuvent éteindre, allumer facilement, et c'est peut-être l'avantage du risque par rapport au CISC, pour reprendre un peu ce que tu disais, c'est que le risque, tu peux plus facilement éteindre et consommer moins, alors que le CISC, je pense que tu as aussi une consommation globale qui est assez stable, et donc du coup qui bouffe beaucoup sur les laptops.
Le risque, c'est un set d'instructions plus réduit, donc généralement c'est, il y a plein d'aspects techniques, mais aujourd'hui il y a combien de milliards de processeurs sur, enfin de transistors, pardon, sur ces processeurs. Je sais pas si ça serait pas possible pour Apple de faire des processeurs qui consomment moins, même en Cisco, peut-être pas, mais bon, ça, il faudrait demander à un ingénieur plus doué que moi, enfin plus calé que moi dans ce domaine. Mais bref, je crois aussi que ces Macs sont parmi les premiers produits Apple ou parmi les rares produits Apple qui mettent tout le monde d'accord dès le départ. C'est-à-dire qu'on a eu très très peu de critiques de ces produits. Le pire qu'on ait entendu, c'est « Ah bah, ils sont revenus à ce qu'on demandait depuis 4 ans », et c'est vrai, avec la question des ports et ce genre de choses, mais c'est à peu près tout. On nous demande dans la chatroom à quelle puce est-ce que ça se compare, ces processeurs. Alors, on est pour le à peu près au niveau de 3050 Ti, 3060, ce genre de choses. Et là encore, dans la chatroom, on nous le précise, donc je vais lire. C'est 3050 Ti pour le M1 Pro et le max, au niveau maximum, c'est carrément une 3080. 3080, aujourd'hui, c'est la carte graphique la plus puissante du marché. Ah, bon, enfin bon, il y a 3090, etc., mais la carte graphique classique la plus puissante du marché, ou en tout cas dans cette catégorie. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et quand je vous dis des cartes graphiques, c'est une carte graphique qui fait la taille d'une, je sais pas moi, enfin c'est une boîte, quoi, très grosse, qu'on met dans un PC tour, pas dans un PC portable. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va parler un petit peu de Google aussi maintenant, il n'y a pas de raison. On va parler des Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui sont peut-être un petit peu moins incroyables que les nouveaux MacBook Pro, mais qui sont notables tout de même. Les Pixel 6 Pro, le truc c'est que c'est un peu moins excitant parce que, enfin, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, on en savait à peu près tout parce que Google nous en avait beaucoup parlé à l'avance. Mais bon, ils ont tout de même des tarifs un petit peu plus raisonnables que le très haut de gamme. On est autour de 6, 7, 8, 900 euros, ce qui n'est pas bon marché, peut-être même un petit peu plus, mais on n'est pas à 1200, 1300 comme on peut le voir chez les concurrents. Ils ont un écran de 120 Hz, donc ça commence à devenir un petit peu standard. Et puis, on a aussi la caméra qui a, vous savez, ce petit bloc caméra horizontal à l'arrière de l'appareil avec deux ou trois caméras en fonction du modèle. Mais je crois que c'est le truc que les gens ont le plus noté, en plus du processeur Tensor qui est fabriqué par Google, donc là aussi avec une base ARM, mais qui est fabriqué par Google, donc ils suivent un petit peu la voie d'Apple sur ce point. La photo, en fait, c'est ce que fait de mieux les Pixels, et c'est là aussi lié au matériel et au logiciel. C'est à la fois le matériel que conçoit et que qu'assemble Google eux-mêmes, et le logiciel donc Android conçu par Google pour ces appareils-là. Et il y a non seulement une excellence dans ce qu'on appelle la computational photography, la photographie computationnelle, numérisée, où des traitements numériques sont appliqués à la photo, mais pas uniquement pour faire des choses spécifiques qu'on demande, mais simplement pour avoir un meilleur rendu dans différentes circonstances. Et puis, il y a aussi des petites choses comme déflouter le visage d'un enfant qui court beaucoup et qu'on a pris en photo à un moment où ça courait trop. On a des choses comme le fait de pouvoir supprimer, quand on en parlait la semaine dernière, des petits défauts sur l'image ou des intrus sur l'image avec des gommes magiques qui vont remplacer la chose qu'on veut supprimer par le fond, comme s'il n'avait jamais été là, etc., etc. Donc ce genre de choses. Au final, je crois que la chose qu'on en retient le plus, c'est le fait que Google semble avoir trouvé une direction avec ces appareils Pixel, il y a une nouvelle dynamique, je dirais, dans le développement des Pixel, à un moment où on commençait à se demander s'ils n'allaient pas abandonner ce domaine aussi. Et là, ça semble ne pas être le cas. Ils vous ont fait une impression, c'est Pixel 6 et 6, Pixel 6 Pro. Maxime, donc toi, tu es complètement habité de l'esprit de Steve, comme on disait. Donc, j'imagine que c'est va des rétro, les Android.
Ouais, ça m'intéresse quand même parce que, bah, comme tu le sais, on fait des applications pour mobile. Donc, on a quand même, on regarde quand même attentivement le marché aussi Android. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais, pour une fois, je trouve que le design est assez différent des iPhones. Ils vont quand même beaucoup plus vers le pro et je trouve que c'est un téléphone qui se démarque bien aussi d'Apple. C'est, on ne pourra pas dire que c'est juste une copie, etc. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a des vraies gammes différentes. Et après, sur le côté logiciel, j'avoue que je ne connais pas grand-chose à Android. Donc, je me fie que à ce que j'ai lu, mais ça a l'air d'être quand même assez rapide. Je vois qu'ils font plus de petites versions. Donc, maintenant, on n'a plus le choix en termes de taille. Mais c'est peut-être pas plus mal aussi, parce que, comme tu dis, c'était un peu compliqué. Le Pixel, c'était quand même pas le téléphone de référence quand on parlait d'Android, ce qui est quand même dommage pour Google. Donc, avec un peu de chance, ils pourraient aussi repasser un peu dans les listes de Noël cette année.
C'est un peu effectivement l'impression qu'on a, c'est que ça devient, si ce n'est le téléphone de référence, au moins un téléphone de référence du monde Android, ce qui devrait être le cas pour un téléphone Google. Je pense qu'on sera tous d'accord. Gaël, ça te parle un peu ces Pixel 6 et 6 Pro ou je sais que du coup on fait les mauvais quoi. C'est pas Android, c'est pas ta cam.
Non, Android, c'est pas ma cam, parce que surtout encore plus avec la, comme le disait Maxime, la taille de téléphone, pour moi, c'est géant.
Toujours le problème.
J'avoue que le nouveau design avec le bandeau photo me parle pas. Après, de ce que j'en ai lu, effectivement, c'est qu'il est quand même super. Le verre utilisé fait qu'il est très. On peut pas le casser, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, mais. Mais ça, c'est quand même un atout assez important. Et j'ai cru comprendre que la charge était vraiment très forte aussi. Donc, on n'a pas besoin de le recharger toutes les trois heures, ce qui me semblerait être un gros avantage aussi. Évidemment, pour ceux qui aiment la photo, c'est incontestable. Hein. Je pense que là-dessus, ils sont très forts. Leurs algos sont très forts, donc je comprends que ça, comme vous dites tous les deux, hein, c'est devenu un vrai device à part entière du marché qui a tout son sens, qui a sa place. Après, c'est pas ma cam, quoi, mais voilà.
Je crois que ce qu'on note au final, c'est que Google s'est dit « Ok, on sait ce qu'on va faire. On va faire cette catégorie de téléphone haut de gamme à prix moyen haut de gamme. » que sur laquelle était sur cette catégorie, il y avait des constructeurs comme Oppo ou OnePlus qui étaient très très forts jusqu'à maintenant sur ce modèle. Ils faisaient peut-être un petit peu moins cher à l'époque et ils se sont dit on va faire ça et ça va être une référence pour le monde Android là où il y avait eu des méandres dans les années précédentes et on avait l'impression qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et en plus de ça, le fait qu'ils s'engagent sur la fabrication de processeurs, ça veut dire que, enfin, ils font pas ça, ils vont pas faire ça un an. Tu peux pas ne faire ça qu'un an. C'est un truc sur lequel tu t'engages sur le long terme. Donc, je pense que là où il y avait une question qui se posait un petit peu ces dernières années, ils ont réaffirmé leur volonté d'être sur le marché du téléphone avec le Pixel 6. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue. J'ai l'impression qu'elle est partagée. En général, c'est le consensus dans les médias. Et comme tu le disais, Gaël, effectivement, ils sont deux à peu près à la même taille. C'est 6,4 et 6,7 pouces. Je disais 120 Hz. En fait, le petit, le Pixel 6, est en 90 Hz seulement. mais ils ont tous les deux l'appareil photo à l'arrière en 50 mégapixels, qui ne va pas faire des photos en 50 mégapixels, mais qui permet de faire comment ça s'appelle, le pixel binning, qui réunit la lumière de différents pixels pour faire des pixels de meilleure qualité, même si c'est de la résolution moindre, etc. etc. Donc voilà pour les pixels. Je crois que on arrive au moment où on va parler de Truth Social, ce moment que vous attendez tous, le réseau de Donald Trump. Mais avant ça, je vais quand même vous dire un petit mot. Vous savez quoi, cette AMA que j'ai fait il y a quelques jours de ça, je voulais vous en dire un petit mot. AMA, c'est quoi? C'est Ask Me Anything. La semaine dernière, on a enregistré le rendez-vous jeu le lundi soir et du coup le mardi, comme il n'y avait pas de programme rendez-vous... qu'est-ce que je dis, rendez-vous jeu? Rendez-vous tech le lundi soir. Et du coup, le mardi midi, à l'heure à laquelle on fait Twitch généralement, eh ben, je me suis dit, je vais faire un petit FAQ. Vous me posez des questions et je vais y répondre très candidement. Et au final, il y avait tellement de questions qu'on y a passé 3 heures. Je ne pensais pas que ça prendrait aussi longtemps, mais on s'est bien amusés tous ensemble. Et du coup, j'ai mis... le AMA, pour ceux qui n'avaient pas pu suivre en direct, je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre sur le flux des podcasts. Il y aura peut-être 3 personnes qui vont l'écouter, ça va leur faire plaisir, qui vont en écouter un petit bout. Et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui ont écouté entre le moment où je l'ai publié, on l'a publié le samedi soir, et bah, la fin du week-end, le début de la semaine. Il y a plein de gens qui sont venus me dire qu'ils l'avaient écouté, qu'ils avaient passé un bon moment, que c'était sympa, que ça les avait accompagnés pendant le boulot de nuit peut-être, ou ce que c'est, et qu'ils avaient passé un très bon moment. Donc, je voulais vous remercier. Plutôt que de parler de Patreon, je voudrais vous remercier tous ceux qui ont écouté cette AMA de 3 heures, en particulier si vous avez été au bout, en particulier, je vous fais un énorme bisou. Vous êtes dingue, je ne comprends pas pourquoi vous avez passé autant de temps à m'écouter dire des trucs qui n'ont pas grand intérêt, je crois. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a touché. Donc un grand, grand merci à tous ceux qui ont écouté cet AMA. Vous ne sentez pas obligé d'aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Moi, je trouve qu'il n'a pas énormément d'intérêt et de valeur. C'était juste un truc comme ça. Mais vraiment, le fait que vous m'ayez juste écouté parler et que ça vous ait fait passer un bon moment, ça m'a fait très plaisir. Donc je voulais le signaler et vous remercier au passage. Et voilà, donc le Patreon, vous le connaissez déjà, donc je ne vais pas en parler plus que ça. C'est d'habitude le moment où je fais ça, mais peu importe, je vous envoie des bisous et des hugs.
La vraie question du coup, Patrick, c'est est-ce que tu vas recommencer, puisqu'il y a eu un tel succès?
Écoute, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de questions. Clairement, il y en a eu trop. Je me dis que peut-être qu'on le refera, mais pas 3 heures à la fois. 3 heures, ça me paraît un petit peu long. J'étais un peu fatigué au bout du compte. Mais oui, peut-être qu'on fera une heure par-ci, par-là, des questions AMA. Je pense que ça peut être sympathique si ça plaît aux gens. Tu sais pourquoi je fais du podcast, Gaël? Certains pensent que c'est pour une mission d'information de la tech. Tu vois que la tech, c'est important. Il faut que les gens sachent. Et c'est une sorte de mission sacrée que les gens comprennent la tech pour comprendre le monde. En fait, non, c'est juste que j'aime parler. Donc voilà, moi j'aime parler.
C'est ta psychanalyse quotidienne, quoi.
Exactement. Donc si vous voulez m'aider à me faire mon auto-psychanalyse, vous pourrez poser des questions pour le prochain AMA. On en fera un dans quelques temps, je suis sûr. C'était très sympa. Et la chatroom très gentille qui dit « nous, on aime écouter », c'est très gentil. Je t'écoute comme une série. Or, c'est un compliment.
C'est à ce moment-là qu'on dit « pizza nanas », c'est ça, hein?
Ah, il y en a un qui a suivi. Il y en a un qui a suivi. Très bien, très bien. Bravo.
Ah, bah,
je suis très, 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 merci, très merci. Honoré que tu aies suivi. Bon, alors.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça suffit, toutes ces histoires, on va parler de choses sérieuses, c'est fini les Mac, les pixels, on va parler de le self-proclaimed président favori des États-Unis, c'est-à-dire le président Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci ? Il a annoncé la création d'un gros groupe tech et médias qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, le Trump Tech and... Vous savez quoi, ça n'a pas d'importance. Trump Tech and Technology and Media Company, un truc comme ça. Et leur mission, leur but, est de rivaliser tous les géants de la tech, de rivaliser avec tous les géants de la tech et les géants des médias. En gros, c'est ce qu'on imaginait à la fin de sa présidence. On l'imaginait se lancer dans les médias et créer une chaîne de médias et puis peut-être s'investir dans la technologie. Ça arrivera peut-être un jour. Pour le moment, ce qu'ils ont annoncé, c'est un premier service qui s'appelle Truth Social, donc vérité sociale, sociale vérité. Bon, c'est la marque du truc. Et le président américain, l'ancien président américain, a donc fait une annonce un petit peu comme on la connaît avec les exagérations, on va dire, qu'on lui connaît. Il a dit qu'il était le président favori des Américains, qui a été censuré par les Big Tech et que donc ils vont avoir le réseau social Truth Social qui sera là pour être le réseau, comme le disent souvent les gens d'extrême droite, le réseau pour la liberté de parole, ce qui justifie qu'ils peuvent y dire à peu près ce qu'ils veulent, même quand c'est censuré ailleurs. Le problème, ça c'était un petit peu ce qu'on pouvait attendre hein, d'une telle annonce, malgré les autres, on va dire, pas faux départs, mais les autres réseaux qui n'ont pas été le vrai réseau Trump, eh bien... Au-delà de ça, ce qui est important et intéressant à noter, c'est que avant même son lancement, qui devrait arriver en novembre, début novembre, on a commencé à noter, d'une part, des soucis de sécurisation sur le réseau. Avant son lancement, il y a des petits hackers qui ont réussi à y accéder et à poster des choses sur le compte de Donald Trump qui existe déjà, à créer des comptes pour des personnalités de la droite américaine eux-mêmes, alors que les noms étaient disponibles, etc., etc. Mais il y a deux choses qui sont vraiment notables sur ce réseau et qui sont, on va dire, critiquables. Enfin, je vous laisserai juger. D'une part, alors il y a trois choses. D'une part, la société a été créée avec un SPAC, qui est une sorte de fusion entre deux sociétés, une privée et une publique, pour rendre la société privée publique. C'est quelque chose de légal qui se fait de plus en plus, mais bon, c'est un petit peu un moyen de, d'éviter certaines règles de transparence, on va dire. Et d'autre part, le président de la partie publique de cette nouvelle société a des liens avec la Chine. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de pas bien, mais c'est quand même intéressant de le noter, étant donné la position de Donald Trump sur ces sujets. Au-delà de ça, les conditions d'utilisation du réseau spécifient plusieurs choses. Au-delà du fait qu'ils sont pour la liberté de parole, etc., ils spécifient qu'ils se réservent le droit. Alors, d'une part, il ne faut pas abuser des majuscules, il ne faut pas harceler ou insulter les gens. Ils sont en train de décrire les pratiques des réseaux sociaux de Donald Trump, là, hein, mais bon, passons. Et ils se réservent le droit. Ah oui, il ne faut pas dire du mal de Truth Social. Il ne faut pas dire du mal de la société. Déjà, ça commence à être un peu bon. Et au-delà de ça, il se réserve le droit de supprimer le compte de n'importe qui pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment. Pour la liberté de parole, tout est super ouvert, vous repasserez. Le truc le plus grave, vraiment, c'est qu'il semble avoir utilisé la base du projet open source Mastodon, qui est, on va dire, un clone de Twitter en open source. Et donc, ils l'utilisent, ce dont ils ont le droit. Hein. Il y a d'autres réseaux qui le font, des réseaux avec lesquels les fondateurs de Mastodon ne sont pas du tout d'accord, des réseaux d'extrême droite comme Gab ou Parler ou même Getter, l'ancien avec lequel le président américain avait été associé. Et donc, ils utilisent Mastodon, mais en prétendant que leur logiciel est propriétaire, alors que les conditions d'utilisation de Mastodon, qui est en open source, sont que les projets développés avec le code de Mastodon doivent eux-mêmes être open source aussi. Enfin, doivent être ouverts, doivent avoir du code ouvert. Et donc, c'est quelque chose qui est, pour le coup, non seulement critiquable, mais enfin, ils sont déjà en train de se faire attaquer en justice pour ce problème. Donc, c'est un petit peu à quoi s'attendre. Disons que, je ne sais pas, j'ai une conclusion. J'ai un avis là-dessus, mais j'imagine que vous avez peut-être des choses à dire aussi. Je ne sais pas s'il aurait fallu s'y attendre, s'il y a des... Quelqu'un veut se faire l'avocat du diable dans cette histoire et défendre Truth Social, ou est-ce que...
C'est sûr que ça allait arriver, de toute façon, ça, on le savait, comme tu dis.
Ouais. Que le réseau allait être créé, que Trump allait essayer de capitaliser sur... et puis de revenir, de réavoir une présence sur les réseaux sociaux, ça allait arriver, c'est sûr, ouais. Gaëlle, pardon, tu voulais ajouter quelque chose ?
Écoute, moi, je suis ravie qu'il ait créé ce réseau social. Mais vraiment, sincèrement. Au début, j'ai rigolé. Je me suis dit, évidemment, on pouvait s'y attendre, etc. Et quelle horreur. Et finalement, quand tu y réfléchis, tu dis, mais c'est peut-être la solution à nettoyer les autres réseaux sociaux. En fait, parce qu'ils vont tous partir sur Truth, tous les complotistes. Et puis, du coup, ça va nettoyer de façon toute naturelle Facebook, Twitter. tous les trolls vont partir sur Truth Social. C'est ça que ça veut dire.
Si seulement c'était si simple.
C'était vrai.
Damned. Le problème, en tout cas, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec Gab, Parler et même Gutter, c'est qu'il semble qu'ils ne réussissent pas à décoller ces réseaux au-delà de quelques effets d'annonce. Et en fait, comme on l'a dit à plusieurs reprises, quand ils sont entre eux, les gens de ces mouvances politiques ont tendance à s'ennuyer, il semble, ou en tout cas,
ils peuvent se parler. Ils n'ont plus personne à troller.
C'est un peu ça, ouais.
Il n'y a plus de raid, il n'y a pas rien à faire.
C'est ça.
Il y a un business model derrière. Est-ce qu'il y a des gens qui vont, des publicités qui vont avoir, vont être dessus? C'est là où j'ai pas trouvé l'information, mais.
Disons que, comme tout ce qui a à voir avec ce Trump Media and Technology Group, c'est très très flou. Tout ça est méga méga flou. On sait pas ce qu'ils veulent faire. Il y a des grandes annonces et des, maladresses au minimum ou de l'incompétence au pire dans l'implémentation. Mais j'ai du mal à imaginer autre chose que de la pub. Mais là où ça a été un gros problème pour Gab et Parler, et on imagine Getter, personne ne veut faire de pub sur ces réseaux. Donc, tu te retrouves à quoi ? Là, peut-être qu'il y a le nom de Trump qui va faire que certains vont réussir. À mon avis, plus que de la pub, c'est un moyen supplémentaire pour Donald Trump de rester engagé avec sa base. Et peut-être même de leur demander de l'argent pour la campagne de 2024. Je suis sûr qu'il va vendre des NFT, j'en plaisantais sur Twitter. Il va vendre des NFT de chaque Truth qu'il publie, tu vois, et les gens vont se les arracher des dizaines de dollars ou peut-être même plus.
Mais est-ce qu'il ne va pas réussir à se faire bannir de son propre réseau social, vu les CGU qu'il est en train de mettre en place ?
Vu les conditions, effectivement, il ne tiendrait pas longtemps, à mon avis, mais bon. Bref. Donc voilà, c'est beau. Écoute, si je veux me faire un tout petit peu l'avocat du diable une seconde, je mets le jingle. Si je veux me faire l'avocat du diable une seconde, c'est... Je ne vais pas refaire le laïus, mais il a été effacé du web, du discours public, quand il a été banni des réseaux sociaux. Il a été effacé, on ne le voit plus. Et il a beaucoup, beaucoup de mal à être présent sur le web. Alors, quand il annonce quelque chose, les médias en parlent, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors là, vraiment, je tire sur l'avocat, je l'allonge complètement, parce que c'est une décision sociétale, finalement. La majorité semblait être d'accord pour dire que on ne voulait pas accepter ce genre de discours et ce genre de personnages et de personnalités, donc on a dit désolé, tu peux pas utiliser tel et tel réseau, et voilà, c'est pas qu'il a plus le droit de sortir dans la rue et plus le droit de vivre. Mais s'il y a un argument d'avocat du diable, vous savez quoi, voilà, je l'ai dit pour le principe et on s'arrête là.
Après, ce qui est c'est effectivement ce qui est juste sur le côté mastodon, vol entre guillemets du code source de mastodon, c'est sûr que ça c'est 100% du Trump, quoi. À mon avis, ils ont l'agence ou les développeurs qui sont venus le voir, Trump il a dit moi je veux un truc comme ça parce que je sais qu'on peut pas le faire tomber, Et le gars, il dit, bah oui, mais ça, il faut sûrement faire, il faut 2-3 ans pour le développer. Le mec, il a dit, non, mais attendez, on veut pas le copier-coller. Moi, on peut peut-être le copier-coller, mais c'est compliqué. Non, non, mais moi, je veux que vous me le copier-coller, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Et c'est sûrement très digne de sa réalité alternative, donc tellement ça ne m'étonnerait pas.
À mon avis, c'est de l'incompétence, tout simplement. Ils se sont dit, bon, bah, on prend ça, on fait, ouais, non, ça va passer. Et quelqu'un a vu dans un message d'erreur.
Ils le savent très bien, mais par contre, ils savent qu'ils peuvent pas dire non à Trump, quoi.
Peut-être, ouais. Bon, allez, dans les controverses, on continue. Il y a Google, dont une nouvelle controverse a été révélée. Le AG, le ministre de la Justice, on va dire, au Texas, de l'État du Texas, a initié un procès contre Google et... suite à ça, il y a 14 États qui se sont associés au procès pour des questions d'abus de position dominante. Alors, on est très loin des combats contre la Big Tech que professe le monde politique sur les questions de censure d'opinion. Là, c'est pas du tout ça. Les documents, il y a plusieurs choses vraiment, vraiment dommageables qui ont été révélées par les documents qui avaient déjà été révélés, mais avec des parties censurées. Là, ça a été révélé complètement publiquement. Les deux choses notables, c'est que Google a cherché à contacter, à s'associer, à discuter avec Facebook, Microsoft et Apple sur des questions de régulation, de réglementation, ou plutôt de législation aux États-Unis et en Europe pour ralentir les législations. Donc, c'est vraiment de la collusion. En notant que Apple était visiblement pas trop pour et Microsoft était pas trop pour non plus. Donc en gros, c'est Google et Facebook qui ont discuté de comment ralentir les choses et c'est pas juste bon comment on va faire. C'est ça a pas l'air cool pour nous, mais il y a des airs conspirationnistes là-dedans. Mais au-delà de ça, la chose encore plus importante, qui est vraiment la main dans le sac, c'est un projet qui s'appelle Jedi Blue, qui est un pacte entre Google et Facebook sur le marché de la publicité. Vous savez que Google opère une régie publicitaire, et c'est le cas de Facebook aussi. Et en plus de ça, Google fait de la publicité et Facebook aussi. Ils sont numéro 1 et numéro 2 dans le monde de la publicité en ligne. Et en 2018, ils ont décidé de s'associer pour maintenir leur place sur la marketplace de l'autre. Donc dire, bon, bah, vous aurez, vous, tant de parties, peu importe. Enfin, ils sont sans doute fixés les prix en même temps. Et c'est une pratique qui est, pour le coup, complètement illégale. Enfin, c'est encore... L'enquête est en cours. C'est même pas l'enquête, mais les tribunaux sont en train d'étudier les documents et on va avoir le procès qui va avoir lieu. Donc, le jugement n'est pas rendu. Mais enfin, d'après les documents... On est dans la question de l'abus de position dominante entre deux acteurs dominants la plus claire. Et donc, c'est vraiment un gros, gros coup. Il y a aussi une affaire avec Roku, qui est une box de streaming qui a eu des problèmes avec YouTube, qui exigeait des conditions complètement inacceptables, qui cherchait un traitement préférentiel pour être présent sur la box Roku, qui est là aussi un petit peu une tentative de leur forcer la main avec une position dominante. Mais le plus important, c'est vraiment cette histoire de Facebook et Google qui se tiennent la main sur le marché de la publicité, qui semble assez clairement illégal et condamnable. Oui, le terme, je ne sais plus si j'ai utilisé, mais c'est de la pratique, c'est de l'abus de position dominante pour des pratiques anticoncurrentielles assez claires. Ça risque d'avoir un impact, ça, je pense, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime.
Oui, comme tu dis, Google, Facebook, c'est globalement au moins 70 voire 80% des dépenses publicitaires dans le monde. Donc, à partir du moment où il n'y a plus aucune concurrence entre les deux seuls annonceurs, les deux seuls diffuseurs de tes publicités, c'est clair que tout le monde y perd, à part Google et Facebook, évidemment.
Ouais.
Mais c'est très compliqué aujourd'hui. Tu vois, si tu veux faire la promo pour ton application, pour ton site, pour n'importe quoi, à part Google, à part Facebook. Je comprends que Microsoft ne soit pas rentré dans la danse parce qu'eux, ils n'ont pas trop d'intérêt. Au contraire, ils auraient plus un intérêt à faire un peu moins cher ou à essayer de développer d'autres choses. Mais aujourd'hui, à part faire de la pub sur Instagram, donc Facebook ou sur Google ou autre, on est très limité. Donc les coûts sont exorbitants. Et, ce qui est prouvé là, c'est qu'il n'y a même pas de marché, en fait. C'est que de l'entente.
Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que contacter Facebook a dit, et Google sur la question de Roku a dit un petit peu la même chose, ils disent « Ah ben non, pas du tout ». Mais on voit les emails en clair avec les noms des personnes responsables et les accords et tout ça. Ils disent « Non, en fait, c'est l'opposé qui est vrai ». Et tu... Mais, enfin bon, c'est bien qu'il y ait un procès pour que les choses soient vraiment clarifiées, mais la communication est assez frappante, quoi. Et puis, ouais, enfin bon. Gaël, je t'ai vu te démuter, tu vas...
En fait, ouais, légalement, ça va être compliqué parce que, et je pense que c'est pour ça qu'ils répondent comme ça, c'est que si je prends juste le techniquement parlant, les pratiques qu'ils adoptent sont des pratiques qui sont légales puisque c'est le système de ce qu'on appelle les achats programmatiques en publicité. Pour y avoir travaillé quelques années, je le connais bien. Et c'est ce qu'on appelle le header bidding. Donc, le header bidding, c'est en fait n'importe quel annonceur a le droit de dire eh ben moi, je, quoi qu'il arrive, je prends l'enchère la plus chère et dans 90% des cas, je suis prêt, quoi qu'il arrive, à prendre l'enchère et à acheter la pub devant tout le monde. Sur n'importe quel truc. Donc finalement, si c'était des annonceurs normaux, en fait, c'est aujourd'hui une pratique qui se fait et avec ce qu'on appelle des minimum garanties. Donc ça veut dire qu'un annonceur peut dire bah je m'engage quoi qu'il arrive à dépenser 100 millions de dollars par an, etc., etc. Donc c'est des contrats qui aujourd'hui existent avec beaucoup d'annonceurs sur le marché. Sauf que là on a une vraie problématique qui est différente, c'est qu'on parle de Facebook et Google qui sont les propriétaires des plateformes. Mais en fait, si tu veux, contractuellement, ils ont utilisé les contrats qu'ils utilisent avec tous leurs annonceurs. Donc, c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'ils sont complètement à l'ouest et qu'ils se disent non, mais on a utilisé les contrats, on est un annonceur comme un autre et on fait comme tout le monde, donc c'est légal. Sauf que, bah non, les gars, vous êtes les propriétaires, vous êtes les deux plus gros, vous pouvez pas faire ce que vous vendez à tous vos clients. Mais du coup, effectivement, c'est assez rigolo de qu'ils se prennent pour n'importe quel client, en fait, et qu'ils soient, je pense qu'ils sont peut-être même très sincères quand ils te le disent.
Oui.
Ils te disent, bah en fait, on a fait comme tout le monde, quoi.
Je vois pas quel est le problème. Ouais, c'est assez frappant. Et là où je crois qu'il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est que il y a des gens qui vont dire ah bah si on le sait, ils font toujours voilà, c'est des salauds les grands de la tech, ils font plein d'entourloupes machin. Mais contrairement à des trucs comme prouver que les réseaux sociaux influencent par le harcèlement, par les fake news, les mouvements de société et les idéologies nauséabondes machin, on ne sait pas, on n'a pas d'informations, on suppose. Là, c'est très clair. Là, il y a des faits simples, quantifiables, classiques de criminalité, entre guillemets, si c'est avéré classique, pour lesquels on a des lois, et donc ça risque d'être très facile à juger. Bon, après, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Est-ce que ça va être... vous devez payer 400 millions de dollars, et c'est 14 minutes de bénéfice pour Google et Facebook, donc ça ne va rien changer. Au promis, on ne le fera plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a l'air assez... assez clairement, j'ai pas envie de dire explosif parce que c'est peut-être un terme un peu exagéré, mais ça a l'air assez clairement différent, plus gros que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et puis, puisqu'on parle de Facebook, il n'y a pas de raison, on va aussi parler de Facebook. Alors, je ne vais pas faire très long sur le fait qu'ils risquent d'annoncer un Oculus Pro à leur conférence Connect dans 2 jours. Et en plus de ça, ils se concentrent énormément sur la réalité virtuelle et augmentée et le métavers. Et Zuckerberg est en train, je ne sais plus si on en parlait la semaine dernière, mais il voudrait changer le nom de la société mère, de la même manière que Google ça s'est transformé en Alphabet avec les sociétés filiales en dessous. Ben, peut-être que Facebook va se transformer en, on parle de Meta, on parle de Horizon, et avec les sociétés mères, les sociétés filiales en dessous, et ça pourrait être annoncé peut-être à Oculus Connect, à Facebook Connect. Mais bon, donc ça, on le met de côté un instant. Il y a aussi, et je ne vais pas en parler très longtemps non plus parce qu'on l'a beaucoup fait, je crois que je n'ai jamais vu autant d'articles critiques sur une société et critiques de toutes parts. J'en ai mis dans les notes, j'en ai mis combien ? Une vingtaine, et j'ai pas tout mis. Et en fait, c'est les suites de la série Facebook Files et des documents sortis par Frances Haugen. Et ça va dans tous les sens. Dans l'ensemble, on va dire, c'est toujours dans l'idée que Facebook met en priorité les profits aux questions de bien social, mais pas un petit peu comme toutes les sociétés, et c'est le capitalisme, de manière vraiment extrême et selon les dires et les évaluations des employés même de Facebook, de manière, je ne vais pas dire criminelle là non plus, mais insupportable, difficile à supporter. Et on a eu des tonnes et des tonnes de documents qui vont dans ce sens, toujours gérés avec Frances Haugen, qui les a sortis, donc la lanceuse d'alerte. Il y a un autre lanceur d'alerte, d'ailleurs, qui va témoigner devant la SEC, la Securities and Exchange Commission. Donc, cette affaire-là continue. Je ne vais pas en redétailler, je vais pas la redétailler à chaque épisode. On en reparlera là où, quand il y aura des évolutions significatives. Maxime nous dit, le seul moyen pour ça, c'est de changer son image ou de changer de nom. Stéphane, dans la chatroom, nous disait, c'est de changer son image, ça va être de changer la tête de l'entreprise. Je suis d'accord, mais vu que Zuckerberg garde... combien ? La majorité des voix sur Facebook, des voix en tout cas, des droits de vote, voilà, c'est comme ça qu'on dit chez Facebook, ça va être dur de le faire sortir, à moins qu'il ait une condamnation légale, criminelle, ou de changer de nom, comme dit Maxime. Mais tu crois vraiment, enfin, on est d'accord, ça va se voir, enfin, c'est pas que ça va se voir, c'est que ça ne changera pas l'image de Facebook si demain il s'appelle Meta.
Ça change pas l'image, mais tu sais, c'est une technique un peu de parti politique. Hein. C'est dès que t'as trop de casseroles, tu changes de nom, puis tu te dis non, mais ça c'était une autre époque. On a changé, voilà, j'ai changé. Donc je pense que ça c'est mine de rien, c'est quand même, tu vois, Google qui est devenu Alphabet aussi. C'était pas non, que pour des casseroles, mais il y a quand même une partie un peu stratégique où voilà, ça cristallise un changement. À défaut de changer le président, comme tu viens de dire, parce qu'il a la majorité des droits de vote, il dirige tout le board sans problème, il peut au moins changer de nom et dire Facebook, c'est un produit et puis on va s'appeler autrement. Et donc, tout ce qui concerne Facebook, c'est plus moi, quoi.
On est d'accord.
Je pense que c'est ça, c'est le fond, c'est lui qu'il faut changer. On pourra, même un nom ne suffira pas, si lui ne sort pas, je pense qu'on ne croira jamais à un changement potentiel de Facebook.
Ça me fait penser à... Comment il s'appelait ? C'était Travis Kalanick chez Uber, qui a été remplacé par Dana Ara... Oh, je ne me souviens plus de son nom. Mais oui, enfin, c'est effectivement là, de plus en plus d'indices semblent montrer que vraiment, il y a un problème de culture dans l'entreprise et de culture qui est, on va dire, qui émane des décisions de Zuckerberg. Et je pense que, à moins qu'il parte, on croira jamais au changement. Après, qu'il puisse y avoir du changement ou pas, j'en sais rien, mais on aura du mal à y croire. Et c'est vrai que, comme le dit Seb, plus ça va, plus ça fait le méchant milliardaire mégalomane des films. Mais complètement. Complètement, il est dans sa tour. Alors lui, je suis sûr qu'il se dit pas « On va esclavagiser le monde et on va se faire plein de brousouf en même temps, machin. » C'est pas qu'il se frotte les mains. Mais enfin, clairement, il y a un moment où tu te dis il a des œillères au minimum, quoi. Enfin bon. Justement, on parle souvent de recherche et de l'importance des projets de recherche et de l'ouverture avec les données sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse en étudier les effets. Twitter a publié volontairement, d'eux-mêmes, ils ont toujours été un peu plus ouverts, mais ils ont publié des résultats d'une étude intéressante sur l'amplification des contenus de différentes origines politiques. Et ils se sont rendus compte que leur algorithme amplifiait plus le contenu de droite que de gauche dans différents pays, y compris la France et les États-Unis. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils disent, on n'est pas sûr de comprendre pourquoi, On ne sait pas si c'est parce que les contenus de droite ont plus d'engagement auprès de leurs followers, ou les contenus de droite sont plus outranciers et donc ça fonctionne mieux avec l'algorithme, etc. On ne sait pas, mais on constate qu'effectivement, il y a plus d'engagement et donc plus de diffusion. Et ça, c'est intéressant à noter. Je pense qu'il faut apprécier la donnée, pas statistique, mais de recherche pour ce qu'elle est. Ils disent qu'ils continuent à étudier les choses, mais c'est très intéressant à noter. Et c'est exactement, pour moi, le genre de choses qu'on voudrait avoir, beaucoup plus, bien sûr, mais le genre de choses qu'on voudrait avoir du côté de Facebook. J'en parle souvent de ces questions de recherche, mais là, c'est un très bon exemple. Et c'est du concret. Et c'est des données sur lesquelles on peut se baser pour former des hypothèses et des conclusions. Donc, moi, j'applaudis vraiment Twitter d'avoir fait cette publication.
Surtout que Twitter n'a jamais fait comme Facebook, en tout cas pas publiquement. Il n'a jamais essayé d'orienter les flux, parce que tu sais, la timeline Facebook, le fameux algorithme a été plusieurs fois modifié pour tester les réactions des gens. Et ils ont montré qu'en mettant des statuts plus négatifs, ils arrivaient à rendre des gens dépressifs ou négatifs sur leur vie, etc. Et poster à leur tour des posts un peu négatifs. C'est des études qui sont intéressantes d'une certaine manière, mais qui sont quand même dangereuses quand tu le fais sur 500 000 personnes ou 1 million. Quoi.
C'est sûr. Bon, disons que Twitter a aussi un flux algorithmique, hein, donc ils font des tests dessus aussi, j'en suis sûr. Mais c'est vrai que Facebook... mettre de la pub, ouais. Et en parlant de réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu que Douyin, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est l'équivalent en Chine de TikTok. C'est ByteDance, la société mère qui a ce réseau, donc TikTok pour l'Europe et Douyin en Chine. Ils ont maintenant, quand on utilise trop le réseau, tous les quelques TikTok, il y a une vidéo...
Bois un verre d'eau.
Mais presque. Il y a une vidéo de 5 secondes qui t'empêche de faire quoi que ce soit, qui s'affiche en plein écran et qui dit « Regarde, le monde est beau, tu pourrais poser ton téléphone, pense à ton travail demain, tu dois te lever tôt, est-ce que tu vas pas être fatigué ?» Ce genre de choses. Alors c'est dans un contexte intéressant en Chine, hein, qui attaque l'industrie de la tech. Et qui attaque sur ces domaines aussi, la question de l'utilisation excessive des réseaux et des jeux, etc. Et donc maintenant, il y a une pause qui t'encourage à arrêter d'utiliser l'application. Est-ce que vous voudriez ça sur Twitter ou Instagram ou ce genre de choses ? Ça pourrait être pas mal.
Toi-même, tu sais que ça a été fait sur World of Warcraft. C'était un des premiers jeux qui a obligé les gens... à s'arrêter, mais...
T'étais pas obligé.
Plus on va s'avancer, plus ça va le faire. En Chine, je crois que c'est obligatoire quand même.
Ah oui, en Chine, oui. En Chine, ah oui, maintenant, ils interdisent le jeu pour les adolescents, genre à 3 heures par semaine, effectivement. Mais à vrai dire, sur World of Warcraft, il y avait un système qui était beaucoup plus intelligent. Il y avait un système de l'expérience qu'on gagne dans le jeu était... doublé pour une période de temps, une quantité d'expérience chaque semaine. Et donc, c'était d'encourager les gens à jouer à ce moment-là, mais peut-être à s'arrêter après pour ne pas trop jouer, mais c'était intégré au jeu lui-même. Donc peut-être, en fait, que l'équivalent sur Douyin ou TikTok, ça serait de te présenter des TikTok super cool au début, et puis au bout de 40 minutes, ils te présentent des trucs un peu chiants. Ça pourrait être pas mal. Voilà l'équivalent.
Ouais.
Il y a des concepts à explorer, ouais. Moi, je crois que, tu vois, les game designers devraient s'intéresser aux réseaux sociaux. Il y aurait peut-être des moyens de résoudre nos problèmes. Quoi d'autre ? Microsoft a lancé pour les insiders l'intégration des applications Android sur Windows 11. Donc, c'est en test, c'est en train d'arriver. Ça fonctionne pas mal. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Google est en train de baisser ses commissions sur le Play Store. On continue à voir les effets des procès contre Apple et du regard critique que posent les hommes politiques et la société et les femmes politiques sur ces stores. Et puis une chose qui m'intéresse parce que je suis un gamer, Stadia, vous savez, le service de jeux en streaming de Google, qui n'a pas super bien marché, a commencé à vendre son service en marque blanche. Ils ont un deal avec AT&T, notamment aux États-Unis, où ils vendent la technologie pour que AT&T propose à ses abonnés des jeux vidéo gratuits par streaming en fonction des abonnements, des trucs et des offres. Ça commence. Moi, je trouve que c'est... C'est un peu un truc dont je parlais dès le lancement de Stadia, donc ça ne me surprend pas beaucoup, mais je crois que c'est notable dans l'industrie quand même. Si vous, là, on est dans la partie où si vous voulez m'arrêter pour parler de quelque chose, il faut le faire. Je parle des petites news rapides.
Ce qui est intéressant là-dessus, c'est, enfin, je pense que tu en avais déjà parlé sur Netflix qui avait acheté un studio de jeux vidéo parce qu'ils sont Night très School, suivis. Ouais. Sur cet aspect-là, et Netflix, je crois qu'a fait le pari à l'inverse et ne parie pas sur le streaming dans le milieu du jeu vidéo. Et je suis plutôt d'accord avec Netflix, mais...
Ça dépend, hein. C'est à ce stade, ils sont en train de tester, et il ne faut pas oublier que Apple a dit « on ne veut pas de streaming sur notre plateforme, de streaming de jeux ». Donc peut-être que Netflix est en train de tester, mais qu'à terme, ils voudraient le faire avec du streaming, d'autant plus qu'ils ont l'infrastructure. Ils sont l'une des rares sociétés à avoir des serveurs partout dans le monde en propre et qui pourraient faire du streaming. Moi, je ne serais pas surpris de les voir arriver avec du streaming aussi à un moment, peut-être. Mais bon.
Ouais, c'est une question de coût. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le coût d'acquisition ou de rétention de tes abonnés sera assez élevé, tu pourras dépenser de l'argent pour faire du streaming de jeux vidéo. Mais le streaming de jeux vidéo coûte tellement cher que c'est compliqué par rapport à des séries, des films qui sont, comme tu dis, dans une infra qui aujourd'hui leur coûte très peu cher à l'utilisateur. Ils en ont 200 millions, donc c'est plus facile. Mais le jeu vidéo, le problème, c'est qu'il faut quand même une ferme de serveurs exponentielle.
Ah, effectivement,
c'est très peu de coût d'échelle.
Ça dépend aussi, j'imagine, du type de jeu. Parce que si c'est des petits jeux mobiles que tu peux télécharger en 500 mégas ou 1 giga, tu peux le faire télécharger à tes utilisateurs. Et une fois qu'il est téléchargé, il n'y a plus de coût de bande passante. Par contre, si c'est des gros jeux qui vont peser 30, 50, 60, 80 gigas, là, tout de suite, tu peux dire peut-être que si une personne va y jouer une demi-heure et c'est fini, il vaut mieux le lui streamer plutôt que de lui envoyer les 80 gigas. C'est une question intéressante, j'y avais pas pensé. Ouais.
C'est clair.
Deux petits sujets Lego. Sundar Pichai a encore une suggestion intéressante, président de Google, hein, bien sûr, intéressante sur les questions légales. C'est marrant que ça tombe au moment où sa société est dans le beau drap au Texas, mais il suggère la création d'une agence fédérale qui gère la législation sur la vie privée. Et c'est pas bête du tout, je trouve. Il parle aussi d'informatique quantique, d'intelligence artificielle, mais une agence fédérale qui gère la régulation et la législation sur la vie privée, ça serait pas mal. On en a en Europe et on a des lois sur ces sujets. Et je crois que si ça se produisait aux États-Unis aussi, alors c'est un petit peu pour éviter de se faire coincer avec des lois différentes dans chaque État aussi. Mais peut-être que ça serait une solution intéressante. Et puis, un truc qui va plaire à Gaël, en Australie, il y a une loi, ou un projet de loi plutôt, qui prévoit d'imposer aux réseaux sociaux d'obtenir l'autorisation des parents pour l'utilisation des réseaux pour tous les enfants de moins de 16 ans. Ou sinon, il y a des amendes de plusieurs millions de dollars. Est-ce que tu y crois, Gaël ? Est-ce que c'est un truc qui pourrait être une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Je suis très curieux d'avoir ton avis.
Alors, je t'avoue que je suis assez étonnée. Opérationnellement parlant, je vois pas comment ils font. Donc, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, il faut demander la carte d'identité. Donc, on n'est plus sur l'anonymité sur les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne? J'avoue que je sais pas.
Alors, imaginons, tu vois, je vais faire un truc, Gaël. On va faire un truc, on va dire, on fait... Et magiquement, c'est possible.
D'accord, ok. Magiquement, c'est possible. Alors,
je pense que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel sont les parlementaires australiens là, dans la rédaction de cette loi. Hein. On va faire hop, hop, clic, clac, clac, c'est possible, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses ?
Alors, je suis d'accord. Je vais te dire un truc. Je ne suis pas pour le contrôle parental à tout va, du tout. Je suis pour l'accompagnement des parents, leur expliquer ce qu'il faut qu'ils apprennent à leurs enfants et ensuite qu'ils apprennent petit à petit à laisser leurs enfants et à ne plus les contrôler et à juste être là en soutien. Il y a d'ailleurs des applications qui font ça très bien, qui sont des tiers. Je ne sais plus si j'en avais parlé de Bodyguard, qui est une application que je trouve géniale parce que les parents peuvent l'installer sur les téléphones de leurs enfants. Ils n'ont rien à faire. Bodyguard s'occupe des réseaux sociaux de leurs enfants et ils ne sont contactés que s'il y a un souci. Et ce n'est pas les parents qui sont en train de contrôler les réseaux sociaux de leurs enfants.
Bodyguard, tu dis ?
Ouais, Bodyguard, ils sont très bien. En plus, c'est gratuit, c'est pas du tout au but lucratif.
Ah, c'est un truc qui est à but non lucratif, tu dis.
Tout à fait. Enfin, après, ils ont une autre société pour gagner de l'argent auprès des professionnels, mais pour les enfants, ils ont vraiment une volonté de faire ça gratuitement. Et moi, j'aime bien cette idée-là de dire, en fait, on apprend aux enfants, on apprend aux parents, et puis on fait un petit chemin ensemble, et puis après, on laisse pas les parents contrôler tous les réseaux sociaux de leurs enfants. Je trouve que ça fonctionne pas, ça ne sert à rien.
Ouais. C'est le genre de truc où immédiatement les enfants trouvent un moyen de se connecter.
Voilà. J'en entends, c'est tellement des. Ils sont très, très, très créatifs. Donc, de toute façon, c'est pire que les voleurs et les policiers, si tu veux. Hein.
D'accord. Tu sais, je me souviens d'une histoire sur ce type de questions. Une jeune fille, je crois, dont les parents avaient pris le téléphone, qui avait trouvé. Dans sa cuisine, en fait, il y avait un frigo avec écran. Tu sais, les frigos connectés, c'était Samsung qui avait fait ça. Elle avait réussi à tweeter depuis le frigo.
C'est génial, j'adore. Tu vois, ils trouvent toujours une solution.
Toujours une solution. Bon, et puis je vais dire un dernier petit mot sur les crypto-monnaies. Bitcoin a dépassé son record il y a quelques jours. Le Bitcoin était à 65 607 dollars. Ça a sûrement augmenté un petit peu plus depuis. C'est retombé entre-temps. Mais c'est notable parce qu'il était retombé à 37 000, je crois, dollars il y a à peine 3 mois, ou un petit peu plus, mais cette année. Et donc, ils sont remontés. C'est dans le contexte de un fonds d'échange. C'est un peu compliqué aux États-Unis. Mais ça a été autorisé par la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui s'occupe de réguler les marchés financiers. Et donc, ces fonds ont été autorisés. Et dans le même temps, le département du commerce américain est en train de donner à la SEC des pouvoirs pour réguler des choses comme les Tether, qui sont des crypto-monnaies stablecoin, c'est-à-dire qui sont attachés à la valeur d'une monnaie réelle ou d'une ou plusieurs monnaies réelles. Donc, il y a un petit peu, il souffle le chaud et le froid du côté des États-Unis, du côté des États-Unis. Et le monde des cryptos continue à évoluer. Et puis, un petit peu plus amusante dans tout ça, il y a Walmart. Vous savez, Walmart, c'est les supermarchés énormes, monstrueux aux États-Unis. Qui sont en train de tester dans quelques centaines, dans 200 je crois, magasins, des machines physiques pour acheter des bitcoins. C'est-à-dire qu'on peut aller, ça ressemble à une sorte de distributeur, et on peut à ces distributeurs acheter des bitcoins. C'est-à-dire qu'on va au distributeur, on met sa carte bleue, on dit je veux pour 15 euros de bitcoin ou 200 euros de bitcoin, ou dollars plutôt, puisque c'est aux États-Unis. Et puis, il vous donne un petit papier, un petit bon. Et avec ce bon, vous avez sans doute un code ou un QR code ou quelque chose. Et vous créez votre compte chez CoinMe, je crois. C'est le nom de la société qui opère ces petits distributeurs. Et vous créez un compte et là, vous pouvez transférer les bitcoins que vous avez obtenus et que vous avez, dont vous avez les détails sur votre petit papier, sur votre compte. Mais bitcoin qui arrive dans des distributeurs chez Walmart, c'est un petit peu le plus incroyable développement bitcoin que j'ai vu de ces dernières années. Ça m'a pas mal surpris.
Ouais, c'est marrant. Moi, j'avais le... Pour l'anecdote, parce que du coup, je n'en ai rien fait, mais à une époque, pour reparler de FeedPress un petit peu, on pouvait acheter des abonnements FeedPress en Bitcoin.
Ah ah.
Au tout début, alors c'est vraiment 2013, je crois, 2013-2014. Et donc, je crois que j'ai vendu rétrospectivement l'abonnement FeedPress le plus cher que je vendrai jamais. Je crois que j'ai deux personnes qui m'en ont pris et je crois que c'était 0,15 Bitcoin, donc ça doit faire quasiment 10 000 dollars. L'abonnement, là, je peux te dire que j'aurais dû les garder.
Tu ne les as pas gardés.
Mais non, parce que c'est un outil qui s'appelait Coinbase, je crois, qui fait le transfert automatique pour permettre aux gens de payer en Bitcoin. Et toi, tu es converti directement en monnaie. Donc,
oui, d'accord. Pas
le choix. Enfin, ils te proposaient le choix, mais automatiquement, ça te le transfère. Mais oui, je pense que c'était comme un peu l'histoire de la pizza, mais à mon petit niveau, tu vois.
Ouais, le type qui a payé sa pizza 13 bitcoins à l'époque.
C'est ça.
Mais dis-moi, je suis surpris avec tes millions, que dis-je, tes milliards de vies de merde. Tu n'es pas devenu un crypto bro qui a été acheté plein de crypto-monnaies ?
J'en ai acheté un petit peu en 2010 ou en 2011. Donc, du coup, ça m'intéressait. J'avoue que je regarde plus trop parce que c'est comme tu dis, ça descend, ça remonte. Si c'est pour regarder ça comme le cours de la bourse toute la journée, après tu travailles plus quoi. Donc
c'est vrai.
Je suis un peu de loin et je suis persuadé que ça va valoir très cher un jour. Là aujourd'hui, je pense qu'on a encore mais même pas la moitié au tiers de ce que ça vaudra dans quelques années. Autant il y a la technologie qui m'intéresse aussi beaucoup parce que c'est mon dada, et là le problème, bon, côté un peu écologique du Bitcoin, mais il y a quelque chose qui changera jamais, c'est que, à mon avis, on gardera le Bitcoin comme la référence de la monnaie, et après, tu as tout ce qui est autour de la blockchain, l'Ethereum, ouais, etc., qui sont plus des outils, qui là aussi sont très intéressants pour d'autres choses, et je pense que si vraiment on parle de monnaie, à mon avis, le Bitcoin il restera quand même le leader comme le dollar aujourd'hui, ouais, sur les transactions plus classiques, et pourtant, on pourrait inventer plein de choses sur le dollar, mais il y a des voilà, c'est l'aspect un peu humain qui fait que tout le monde parle de Bitcoin plus que de crypto.
J'hésite vraiment à le dire, mais parce que le monde des Bitcoins, c'est vraiment, enfin, le monde des cryptos, c'est vraiment un monde particulier avec des gens qui sont très, très, très à fond sur ces choses. Et donc, j'hésite à dire ça, mais je suis en train de mettre un petit doigt dans le monde des cryptos pour comprendre un petit peu mieux. C'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire un petit peu avant. Peut-être que je vous en parlerai à un moment. Mais je suis en train de regarder vraiment comment ça fonctionne et de faire moi-même. Donc, j'en parlerai à un moment, mais c'est assez fascinant comme monde. C'est un peu différent de ce que j'imaginais, mais assez fascinant. En fait, la raison pour laquelle j'hésite à le dire, ce n'est pas du tout une question d'argent. C'est que quand tu commences à parler crypto, cette communauté qui est très active, très à fond, a tendance à être très excité et à t'envoyer des messages. Oh, machin, regarde, non mais si ça, oui, alors si c'est comme ça, ça c'est... C'est un petit peu comme les libristes, tu sais. Les libristes, quand tu dis un truc sur les libristes...
C'est ce que j'allais dire.
Ça, c'est vrai.
Du coup, t'es vite très scruté, surtout sur Twitter. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses. Et moi, j'avais fait à l'époque... Alors moi, j'avais saisi cette énergie-là assez positivement parce que, comme je te dis, sur FeedPress, j'avais rajouté les paiements en Bitcoin et j'avais même fait une application iOS qui suivait le cours de différentes monnaies, je crois une dizaine de monnaies. Et je suivais un peu tous les cours comme ça. Tu avais une appli où tu avais les courbes sur différents portails.
Ton terminal Bloomberg sur iOS, ouais.
Voilà, c'était ça. Et du coup, effectivement, je me faisais avoir parce que tous les jours, je recevais un mail. « Oh, tu peux pas ajouter telle monnaie, tu peux pas ajouter telle monnaie. » Donc, tous les jours, je rajoutais des monnaies, des trucs. Ça me bouffait un temps de dingue pour rien parce que c'était juste pour rigoler, pour afficher des...
Ouais.
Ah si, on m'a donné des Dogecoin quand même un jour, parce que du coup, j'avais rajouté le Doge et j'avais mis le chien qui volait là dans l'application. Dès que t'allais sur le Dogecoin, t'avais un chien qui volait. Et du coup, on m'avait fait un don en Dogecoin.
Mais moi,
on m'a dit, un jour, tu seras Dogecoin millionnaire. Donc, j'attends encore le jour où je serai Dogecoin millionnaire.
Ah, écoute, le Dogecoin a bien monté l'année dernière, si tu les avais gardés.
Grâce à Elon.
Mais oui. Tu sais que moi, en fait, c'est un pote qui m'a parler un petit peu de ça, c'est le même qui m'avait envoyé des Dogecoin à l'époque que j'avais perdu et qui aurait représenté, je pense, une somme assez conséquente aujourd'hui. Donc, non, tout, en fait, c'est pas le Bitcoin qui est important, c'est le Dogecoin qui est bien plus emblématique de tout ça. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce formidable épisode du Rendez-vous Tech. C'était un moment partagé de plaisir. Et avant de se quitter, j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Gaël, peut-être. Si on a été intéressé par l'application Bodyguard, par exemple, qu'on est dans cette optique de protéger nos enfants ou d'accompagner plutôt nos enfants, où est-ce qu'on peut aller ? Dis-moi, Gaël.
Ben écoute, on peut nous retrouver sur coude.fr, un peu partout, sur Instagram, même Facebook, hein, on y est. sur Discord même, on a lancé notre chaîne Discord aussi pour ceux qui créent leurs jeux vidéo sur Coude. Et puis pour les parents, on a une application mobile aussi avec Coude. Donc ils peuvent retrouver tout ce qu'on propose on donne des infos utiles pour les parents. Donc, vous pouvez nous retrouver, me retrouver sur les réseaux, sur Coude.fr ou GM Girardot aussi, quand vous me cherchez à titre perso. Mais moi, toute seule, j'écris pas trop. J'écris toujours sous le nom de Coude.
Sur Coude. Voilà. Très bien. Magnifique. Le lien sera dans les notes de l'émission. Et le lien vers le compte Twitter de Maxime également. Et où peut-on te retrouver ? Qu'est-ce que tu fais du coup sur Internet, Maxime ? On va parler un petit peu en début d'émission, mais vas-y.
J'ai un compte Twitter qui s'appelle Maxime, tout simplement. Donc là, c'est facile à trouver.
C'est à ça que tu reconnais les vrais pionniers de l'Internet. Tu sais, c'est ceux qui ont leur prénom sur Twitter. Tu te dis, ah, là, c'est une caste à part. Hein, c'est les privilégiés.
Oui, je crois que 2006, je crois, la création du compte. Donc oui, on y est. J'ai eu des comptes sur d'autres sites, si tu te rappelles, app.net, qui avait bien marché aux États-Unis pendant un moment. J'avais Maxime également dessus, mais bon, ça ne marche plus, c'est fini. Mais sur Twitter, j'ai réussi à le garder. Et puis voilà, après, sur les sites dont je m'occupe aujourd'hui, donc Beta Série, VDM également, j'en profite, parce qu'il y a peut-être des intérêts. J'ai vu qu'il y avait des nostalgiques. On a un bouquin qui vient de sortir pour la fin d'année, là, qui s'appelle Virus de merde, qui rassemble toutes les anecdotes sur la pandémie. Donc, ça permet de tourner un peu la page, littéralement, puisque c'est un livre physique. Et puis voilà, puis après, vous pouvez suivre un peu mes aventures, maximevalette.com, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je fais au quotidien.
Très bien.
En plus de tout ça.
Videmerde.fr, c'est le design, il date pas d'hier, hein, le design. C'est pas le site original, quand même, là. J'ai l'impression qu'on n'est pas... On n'est pas si ancien que ça.
Je suis un peu vexé parce que c'est un design qu'on a sorti la semaine dernière, mais...
c'est ce que j'allais dire. C'est la semaine dernière, d'accord. Il est simple, on va dire. Mais
c'est parce que tu n'as pas les pubs, c'est pour ça. Ça fait moins animé tout de suite.
C'est peut-être pour ça. Mais je n'ai pas de bloqueur de pub. Pourquoi je n'ai pas les pubs ? Ah, peut-être parce que je suis en Finlande.
C'est ce que j'allais dire. En Finlande, on n'ose pas vous mettre des pubs. On essaie que vous reveniez plus souvent.
Mais du coup, je veux voir le design d'avant, moi. C'est ça qui m'intéresse.
Ah oui, le premier design, oui, tu vas l'avoir sur les web archives. Là, ouais. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Le premier, c'est moi qui l'avais fait avec trois lignes de CSS, voire quatre, mais pas plus.
On ira sur The Internet Archive. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais. C'est très très simple à utiliser et vous avez notamment la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire et qui vous envoie tous les vendredis le meilleur de ma veille, le plus important, le plus intéressant. C'est un moyen très simple de suivre l'actu tech par courrier. Donc la newsletter est disponible là. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech. Vous pouvez soutenir l'émission au tarif que vous voulez. Vous avez des bonus super sympas et le plaisir surtout de soutenir un créateur que vous appréciez et de lui permettre de continuer à faire ses créations. C'est sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, Maxime. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.